Game. Radio.
Alors on est en direct de la Gamescom avec sur le stand de Frogster.
Tu peux refaire ton intro, tu n'es pas à la
Gamescom. Je suis n'importe quoi en plus. Parce que je t'ai vu à la Gamescom du coup.
C'est bref.
Game. Radio. Nous sommes donc en direct du Paris Games Week et nous sommes sur le stand de Frogster et j'ai en ma compagnie le PR manager, c'est-à-dire le responsable des relations presse de Frogster qui va nous faire une présentation générale des jeux présents ici au salon pour vous donner envie de venir au salon ou tout simplement de se renseigner sur ces jeux et éventuellement jouer. Parce que la plupart d'ailleurs ce sont des free-to-play. Mais ça, on va en revenir. Déjà, bonjour.
Bonjour.
Alors déjà, présente-toi peut-être ton nom au moins.
Ok, je m'appelle Pierre Poinsnet, je suis effectivement le chargé des relations publiques vers la France pour Frogster.
Voilà. Écoute, présente-nous déjà les premiers jeux. On va parler d'abord de Runes of Magic, parce que c'est d'abord le plus connu et celui qui est accessible actuellement.
Donc oui, effectivement, on est venu sur le Paris Games Week avec trois jeux. Donc le premier qui est notre petit bébé actuel qui est actuellement en cours d'exploitation, qui est Runes of Magic. Un jeu gratuit, entièrement disponible sur Internet sans aucune contrainte à l'achat. Donc comme la plupart des MMO gratuits disponibles sur le net actuellement, il propose un contenu entièrement gratuit et fonctionne avec un système de boutique qui permet d'obtenir des objets, qui permet de personnaliser un peu plus avant son personnage, des fonctions par exemple qui permettent d'augmenter le gain d'expérience, quoi que ce soit, mais quoi qu'il en soit, pas la super arme qui va permettre de tuer tous ses adversaires en un coup ou quoi que ce soit. C'est un jeu qui en est actuellement à sa deuxième extension, la troisième est sur le chemin. On va avoir de grosses annonces à faire dès le mois prochain là-dessus à nos joueurs, à notre communauté qui est forte de près de 5 millions de joueurs maintenant en Europe. Et voilà, Runes of Magic se porte très très bien, on est tout à fait content d'être là parce que c'est la première occasion pour nous de rencontrer notre communauté française et on voit notre community manager France Mido qui est très demandé par sa communauté à qui il a fait gagner des places et c'est très agréable de voir que les gens à qui on a offert des places viennent sur notre stand et demandent à le voir pour le remercier personnellement. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment une communauté très sympa. Et avec un contenu très très dense, le niveau maximum est fixé au niveau 60. On a intégré avec le chapitre 3 une nouvelle zone qui a encore approfondi le background du jeu. Et on continue de travailler avec des mises à jour régulières sur des ajouts de contenu de Runes of Magic. Donc voilà, Runes of Magic se porte très bien et toujours bien vivant et même plus vivant que jamais en fait.
Donc on va continuer. On va, en fait, le jeu continue vraiment de fonctionner et on peut voir encore du Runes of Magic pendant plusieurs années là encore. Hein.
On espère aussi longtemps que possible, du moins. Enfin voilà, on est là pour faire en sorte que ça dure et que effectivement, Runes of Magic continue d'avoir de nouveaux joueurs, continue de s'agrandir, de s'approfondir en termes de contenu. Donc ouais, on espère vraiment que ça va durer parce que c'est un projet auquel peu de personnes donnaient sa chance parce que jusque-là on était victime de l'image des jeux gratuits qui étaient très mal vus en France et au final voilà, on voit que Runes of Magic a créé un espèce d'exemple en fait à ce niveau-là.
Il sortit un peu du lot, non ?
Il sort un peu du lot parce qu'effectivement on est toujours comparé à World of Warcraft et c'est vrai qu'il y a énormément de similitudes, mais voilà, les gens ils trouvent leur compte et ils trouvent quelque chose d'original qui fait en sorte que voilà, ils ont envie de rester sur notre jeu. Et quand je vois la communauté allemande qui continue à se développer et qui est encore plus active que la communauté française qui est déjà pourtant très active en termes de projets qu'elle crée totalement en autonomie, comme ils ont créé par exemple un wiki qui répertorie plein d'articles concernant les bases de Runes of Magic et qui est vraiment impressionnant, un travail communautaire vraiment colossal. Voilà, moi j'ai juste envie de me décarcasser pour eux parce que ça fait vraiment du bien de voir une communauté qui s'investit pour son jeu, quoi. Ça fait longtemps que je n'ai pas connu ça en tant que joueur de MMO et ça me fait plaisir de le retrouver dans Runes of Magic en fait.
Bon, on va parler peut-être de là par contre des futurs projets hein, de Frogster. Et je crois que c'est avec enthousiasme là que tu vas m'en parler. Il s'agit tout simplement, l'un des deux, allez, Mythos.
Mythos, oui.
Mythos qui a été dévoilé il y a quelques temps là.
En fait, Mythos c'est un peu particulier. On a révélé la signature du contrat il y a quelques temps. C'était genre un mois avant la Gamescom, donc au mois de juillet. Mythos a une histoire un peu particulière, étant donné qu'en fait c'est un jeu qui a été développé il y a plusieurs années. Et dont le développement a été abandonné suite à la faillite du développeur. Et le développement a été poursuivi par la société Handbeatsoft, à qui on a racheté les droits d'exploitation en Europe. Et donc Mythos va débarquer normalement de courant 2011 sur vos PC en France, intégralement localisé en français.
Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Éventuellement l'univers et ici éventuellement des similitudes avec Rhythm of Magic ou pas du tout ?
En termes de gameplay, il n'y a absolument aucune similitude avec Runes of Magic. En fait, c'est un jeu qui fait partie de la catégorie des hack and slash. Pour donner des exemples de titres hack and slash connus, pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers avec le genre, on va citer Diablo, on va citer Torchlight, qui seront nos principaux concurrents l'année prochaine avec leur...
Torchlight 2, je crois.
Voilà, Torchlight
2.
Torchlight 2 et Diablo 3, même si Diablo 3 serait plutôt vers la fin d'année. Donc voilà, c'est un univers très particulier, très inspiré par la BD en fait. J'ai envie de dire que quand vous jouez à un hack and slash, normalement, vous avez une appréhension d'avoir un univers sombre, très sanglant, etc. Je pense que la plupart des fans de Diablo se souviendront de la salle du boucher où vous voyez des corps à moitié découpés, etc. On retrouve ce genre d'ambiance sombre, mais pas aussi sanglante, pas aussi violente et quoi que ce soit. Les univers sont plus inspirés de la BD, plus doux, mais tout aussi prenant. On a pour l'instant 4 zones qui seront normalement accessibles à la release. Bien d'autres seront disponibles par la suite, qu'on rajoutera au fur et à mesure des extensions. Et les dessins sont très à mi-chemin entre le manga et la BD, et ça donne un petit côté accessible à tout le monde en fait. Globalement en fait, moi ce que j'aime bien mettre en avant, c'est que c'est du fun pour tous, et que j'envisage très bien un père de 40 ans jouer avec son gamin de 10 ans à ce jeu là sans aucun problème. Correction, il faudra que tu coupes avec un gamin de 12 ans, parce que le Peggy est fixé à...
Donc le gamin de 12 ans avec son père.
Avec son père, voilà. Et voilà, c'est typiquement le genre de jeu en plus qui n'est pas prise de tête. C'est-à-dire que vu que ça fonctionne sur un système, je prends une quête qui me demande d'aller tuer un monstre dans tel ou tel donjon. Je peux me loguer pendant 10-15 minutes, aller me faire une petite quête, aller tuer quelques monstres au fond de mon donjon, et j'en profite tout aussi pleinement, quoi. Et donc Mythos sera aussi accessible en modèle free-to-play, c'est-à-dire qu'il fonctionnera grâce à une boutique. Et on continuera dans la politique de Frogster de mettre en place une boutique qui ne déséquilibre pas le jeu, mais qui permet juste aux personnes qui le souhaitent de gagner du temps en payant plus cher que les autres, quoi. En payant tout simplement par rapport aux autres clients.
Garder la même politique avec les traductions bien sûr en français et une communauté française qui sera présente sur les serveurs.
On aura les serveurs en français prévus pour la France, donc les joueurs français pourront jouer en français sans aucun problème. Ils seront tout à fait libres d'aller jouer sur les serveurs anglophones s'ils le souhaitent, il n'y aura pas de limitation de ce côté-là. Et on a énormément de joueurs qui viennent sur le Paris Games Week et nous disent « Ah oui, il y a 2 ou 3 ans j'ai testé les jeux, etc. » Donc je tiens à dire aux auditeurs qui ont peut-être essayé la bêta de Mythos que le développement a continué, que le jeu s'est encore bonifié. Et qu'on a encore plus de contenu sous la pédale, et que vous en faites pas, il y aura plein de nouveautés par rapport à ce que vous avez pu expérimenter il y a 2 ans. Voilà.
Donc effectivement, Mythos à suivre de très très près. Il sort l'année prochaine, donc très bientôt.
Normalement, oui, courant 2011 aussi.
D'accord, pas de date précise encore.
Pas de date précise, mais on devrait commencer à communiquer sur des prototypes bêta test, et bien évidemment potentiels joueurs sont invités à se rendre sur le site officiel www.mythos-europe.com. réflexe anglophone, s'inscrire au bêta test, et normalement ils devraient recevoir des informations à ce sujet sous peu.
D'accord, c'est parfait. Bon, on va passer maintenant au gros, au lourd, au Terra, gros morceau. Là c'est vraiment une grosse nouveauté sur laquelle vous communiquez énormément. Il s'agit donc de Terra.
Ouais.
Terra, est-ce que tu peux vraiment nous en parler, pas forcément en détail, mais au moins ce qu'a prévu Frogster là pour Terra?
Frogster prévoit énormément de choses pour Terra que je peux dévoiler, pas énormément malheureusement, mais ouais voilà, c'est notre nouveau petit bébé et on espère qu'on arrivera à le faire grossir pour en faire un extrêmement bon jeu. Enfin, pour l'instant, on n'a que des retours positifs des gens qui peuvent le tester. Et moi, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que quand je vois que la version qu'on propose n'est pas forcément la version, est loin d'être la version définitive du jeu, c'est une version du jeu qui a près de 6 mois. C'est la même qu'on avait représentée à la Gamescom. Malheureusement, pour des raisons techniques, on a encore privilégié cette.
80% là, à peu près, non? Ou 70?
De quoi?
En pourcentage de développement là?
Oh, je ne vais pas donner d'estimation puisque le développement n'est pas encore terminé, donc je ne sais pas où on en est du pourcentage. Mais quoi qu'il en soit, voilà, les graphismes, tout le monde est impressionné par les graphismes et par le système de jeu, puisque peut-être que je vais le rappeler pour les auditeurs, en fait, le système de jeu de Terra est vraiment ce qui fait sa particularité première, c'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de sélectionner vos cibles, tout se passe par un système de visée. C'est-à-dire que mettons, voilà, je vais prendre mon exemple typique. Quand je jouais à World of Warcraft et que je jouais une classe qui s'occupait du soin, limite à la fin, je pouvais rester à moitié à AFK en train de regarder la télé, je lançais mes sorts quand j'en avais besoin. Oui, je sais, ils vont dire, oh, c'est un noob, gna gna, etc. Mais bon, voilà.
C'est un peu ça. Dans les raids, c'est ça.
Dans les raids, c'est ça. Enfin bon, j'ai fait partie des plus grosses guildes d'Europe, donc ça me pose absolument aucun problème si les gens pensent ça. Mais bon, voilà, c'est une question de skill, donc c'est juste des jaloux. Après, voilà, dans Terra, vous pouvez pas faire ça parce que vous devez cibler activement la personne que vous choisissez. Et avec le système de détection des collisions, vous pouvez pas voir à travers les monstres. Donc si le mec il est parti à perpète courir après un monstre derrière un mur, etc., vous pouvez pas lancer votre soin de groupe et le toucher. C'est-à-dire que vous devrez viser activement la personne pour pouvoir la soigner. Et il en va de même pour les sorts, par exemple des classes d'attaque à distance. La sorcière a la possibilité de charger des coups, elle doit prévoir le déplacement de ses cibles pour pouvoir relâcher son coup au bon moment et dans la bonne direction.
On est proche d'une simulation là, une simulation de...
C'est un jeu qui est extrêmement dynamique parce que ça mélange... Extrêmement dynamique et extrêmement agréable dans le sens où il mélange la profondeur d'un jeu de rôle et le dynamisme d'un FPS comme par exemple Counter-Strike ou Call of Duty. C'est-à-dire que vous devez toujours faire quelque chose devant votre écran. Et pas seulement pour la visée, c'est-à-dire que ça marche aussi pour l'esquive, pour la défense, etc. C'est-à-dire que votre monstre, le monstre que vous affrontez vous donne des indications sur quand il va taper ou quoi que ce soit. Et c'est tout à fait possible que si vous êtes réactif, vous puissiez faire un petit pas de côté pour l'esquiver et qu'il tape dans le vent et lui infliger des dégâts colossaux dans le dos ou quoi que ce soit, quoi.
Et concernant en fait, concernant toujours la mise en place du jeu, ça sera un free-to-play donc.
Non, ce ne sera pas un free-to-play. Ce ne sera pas un free-to-play. On a déjà communiqué sur ce sujet parce que ça, enfin, au moment où on a annoncé la signature du contrat, on a récupéré une très très mauvaise publicité de la part d'une certaine partie de la communauté qui suivait Terra, qui disait oui, on a testé les jeux Frogster, on a eu des gros problèmes avec eux, c'est des exploitants de free-to-play, Terra mérite pas ça ou quoi que ce soit. On est intervenu très rapidement par le biais de nos dirigeants qui sont intervenus en personne sur les forums officiels pour dire ne vous en faites pas, on a tiré des leçons de nos erreurs parce que oui, il y a eu des erreurs et on fera de notre mieux pour faire en sorte que Terra ait ce qu'il y ait de mieux. Et on n'a pas décidé, mais il a été clairement défini dès lors de la signature du contrat que Terra sera exploité en Europe en 3 versions, donc anglais, français et allemand, et sera exploité sous un modèle à abonnement.
D'accord. Sans rentrer dans le débat, là, je suis un peu étonné en fait par ce que tu me dis. Est-ce que c'est parce qu'un jeu est free-to-play qu'il est forcément de moins bonne qualité?
Absolument pas, mais c'est juste que les jeux gratuits drainent une communauté qui est généralement plus large que les jeux payants, tout simplement parce que voilà, ils sont accessibles à tous contre un petit téléchargement, et qu'on a la possibilité... On a malheureusement... un phénomène qui fait que il y a effectivement quelques erreurs et il suffit que ça tombe sur une personne qui a envie de faire beaucoup de bruit pour que cette erreur crée un mouvement de foule. Mais on a solutionné tout ça. On aura un service de support disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est pas des paroles en l'air puisqu'on est actuellement à la recherche de près de 80 personnes pour notre service support. Ce service support sera mis en place dès la sortie de Terra et sera là pour vraiment faire en sorte que l'expérience des joueurs soit aussi bonne que possible. Et bien sûr, ce support bénéficiera aussi à notre jeu Runes of Magic et Mythos.
Donc, en fait, grosse nouveauté et surtout qui va être bien exploité par Frogster. Donc vous prenez vraiment pas les choses à la légère, et ça c'est important de le dire, effectivement. Ouais. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est que si le jeu avait été en free-to-play, il y aurait eu moins de succès, d'après ce que peuvent penser les gens.
Bah, c'est pas une question de qu'il y aurait moins de succès, en fait, c'est juste que...
Réputation, non, enfin, je sais pas.
Le problème, c'est qu'on comprend... Enfin, personnellement, je comprends les craintes des joueurs, parce que c'est vrai que Frogster n'est pas forcément un acteur du marché qui est aussi connu que Ubisoft, que Blizzard, que Activision. Et donc voilà, c'est à nous de faire nos preuves aussi. On comprend tout à fait ce genre de réaction, et c'est tout à fait normal qu'il y ait toujours des personnes pour venir remettre sur le tapis des éléments qui font des éléments ou des moments qui n'ont pas forcément été faciles. Mais on va faire en sorte de prouver le contraire à tout le monde et de dire que voilà, Terra est un jeu très important pour nous et qu'on va tout faire pour, on veut vraiment tout faire pour faire en sorte que ça marche bien. Et le problème, voilà, Terra resterait Terra, qui passe en modèle free-to-play ou non. C'est juste que voilà, ça a été déterminé comme ça avec le développeur. On a dit qu'on l'exploiterait selon un modèle à abonnement. C'est un choix qui se peut tout à fait justifier. Et après, voilà, ça. Mais à mon sens, ça n'aurait fait aucune différence que Terra soit en free-to-play ou quoi que ce soit, puisque quoi qu'il en soit, le jeu était déjà bien avancé en termes de développement et que ça n'aurait aucunement influencé le gameplay, la qualité des graphismes et le contenu de l'histoire, en fait, qui est vraiment, vraiment très, très, très approfondi, quoi.
Bon scénario. Une dernière question, là, par contre, ça sera vendu en boîte, j'imagine, puisqu'il y aura un abonnement ?
Je peux pas me prononcer là-dessus, c'est encore en cours de négociation. La logique, effectivement, voudrait qu'on le vende en boîte, surtout que le client est assez volumineux. Mais on est actuellement en train d'étudier des partenariats avec certains distributeurs en boîte et aussi en version digitale.
Donc prévu pour quand, l'année prochaine ?
L'année prochaine est fermée définitif, donc ce sera en 2011. On ne peut pas encore dire quand, mais ce sera en 2011.
La bêta va bientôt commencer, après ce que j'ai entendu ?
La bêta devrait commencer dans le courant des premiers mois de l'année prochaine, normalement. Peut-être même avant, si tout se passe bien. Mais voilà, de toute façon, on communiquera bien autour de ça et les auditeurs seront invités à participer aussitôt que possible.
Une dernière question. Là, il s'agit du Paris Games Week en lui-même et de votre stand. Quelles sont vos premières impressions là, sur ce premier jour ? Est-ce que c'était ce que vous attendiez ? Est-ce que vous êtes content des retours que vous avez ou c'était il y a des petites déceptions ?
Alors, au niveau des retours qu'on a, c'est extrêmement positif parce que comme j'expliquais, on a beaucoup de gens de notre communauté de Runes of Magic qui viennent nous faire un petit coucou et ça fait vraiment toujours plaisir. Les personnes qui jouent à Terra sont vraiment impressionnées et nous disent on va suivre ça parce que voilà, et la mission est accomplie parce que notre objectif c'était vraiment de venir ici et de faire connaître le jeu. Parce que même s'il ne sort que l'année prochaine, ben voilà, quand il sortira, si ça peut juste faire sonner une petite alarme quelque part dans la tête des gens en disant « Ah, j'avais testé au Paris Games Week, c'était super bien, ça ne peut... » Franchement, c'est voilà, mission accomplie de ce côté-là. Au niveau des autres exposants, je ne saurais me prononcer parce que
c'était Frogster surtout que je pensais.
Au niveau du salon lui-même, c'est difficile parce que on est sur notre stand de 9h à 19h et que quand on a le temps d'aller sur les autres stands, ils sont fermés, donc on n'a pas le temps de tester les autres jeux.
Vous avez assez de place ?
Comment ça,
sur votre stand ?
Ah si ça tenait qu'à nous, on aurait 50 fois l'espace, mais après tout est question de budget et d'espace.
Bien sûr.
Là franchement, on a un très joli stand que j'invite tous vos auditeurs à venir voir parce que ça vaut vraiment le détour. C'est à mon sens loin d'être le plus moche du
salon. Clair. C'est pas un gros éditeur, donc effectivement,
franchement,
c'est la première fois que vous venez en plus dans un salon français comme
ça. C'est la première fois qu'on est présent sur un salon français. On voulait vraiment marquer le coup et plutôt que d'avoir du gros, on préfère avoir du qualitatif. Et là, on a un stand qui permet à autant de joueurs que possible de venir tester. On a 12 postes pour Terra et on a 5 postes pour Runes of Magic et Mythos. Enfin, 5 postes pour chacun des deux jeux. Et franchement, tout le monde a la possibilité de tester le jeu. Il y a des hôtesses qui sont là pour encadrer les joueurs. Nos deux CM pour Runes of Magic et pour Terra sont là pour encadrer les joueurs. Donc à partir de là, je pense qu'on va passer un très bon salon. Pour l'instant, pas de déception. On a eu juste un petit... Petite interrogation ce matin pour l'ouverture anticipée, je vais dire, parce que on a effectivement pas vu grand monde.
Ah ouais, d'accord.
Donc,
il n'y a pas beaucoup de monde, effectivement. Mais là, ça commence à venir.
Disons que ouais, là, voilà, le salon est officiellement ouvert depuis 13h et on commence à avoir du monde arriver quand on fait des animations et qu'on propose des jeux concours. Puisqu'on a plein de goodies à faire gagner, il y a du monde qui vient autour du stand, donc ça fait super plaisir. Mais c'est vrai que ce matin, on s'est retrouvé un peu perdu au milieu de deux pelés, quatre tendus. Mais à partir de là, franchement, pour l'instant, très bonne expérience, bonne première édition du Paris Games Week. On voit que l'organisation est encore en rodage sur certains points comparé au gros salon que nous on a pu faire à la Gamescom par exemple ou aux États-Unis. Franchement, voilà, je pense qu'il y a des bonnes bases pour en faire un bon événement français. J'espère juste de mon côté qu'ils arriveront à s'arranger avec l'autre salon français qui est le Festival du jeu vidéo, qui lui en est à sa cinquième, je crois. Il était sa cinquième
édition, oui. Qui a été un peu décevante cette année, effectivement.
J'y étais en tant que simple visiteur, pas en tant qu'exposant cette fois. Elle était décevante, mais toujours aussi intéressante parce qu'on voyait qu'il s'occupait beaucoup des petits éditeurs d'avoir pu voir des démonstrations de Lille sur scène ou d'autres jeux du Portail à la Playa par exemple. C'était très intéressant et quand on voit, voilà, on vient ici au Paris Games Week, il y a des gros éditeurs effectivement, mais je me sens vraiment tout petit par rapport à eux et j'ai pas l'impression qu'il y ait d'un autre côté cette ouverture par rapport aux plus petits éditeurs et plus spécialement aux éditeurs de MMO quoi. Quand on voit par exemple que Activision est là mais Blizzard n'est pas là, je suis à peu près persuadé que c'est une décision de Blizzard
Il y a BlizzCon en plus en même temps presque.
Il y a BlizzCon en même temps, donc c'est tout à fait logique, ça justifie. Mais au niveau de l'activité MMO, il y a Final Fantasy XIV qui est là, mais parce qu'il présente Deus Ex en même temps et Guild Wars 2. Les produits Frogster et c'est à peu près tout quoi.
J'ai l'impression que les éditeurs sont un petit peu frileux là sur certains stands.
C'est pas une impression de frilosité en fait, c'est juste que on est sur un salon qui se veut aussi ambitieux que la Gamescom, donc obligatoirement il faut que les grosses aillent à part du lion et comme à la Gamescom c'est à celui qui fait le plus de bruit ou quoi etc. Mais voilà, c'est juste que il manque peut-être un peu l'esprit famille qu'on peut retrouver au Festival Jeux Vidéo. Mais je suis un peu persuadé que c'est juste parce que c'est la première édition. Et enfin voilà, il suffit de voir comment se passe une Gamescom. C'est la grande famille du jeu vidéo européenne qui se retrouve tous les ans. Et on fait des fêtes tous ensemble, sans aucun problème, tous les soirs, etc. Et il n'y a peut-être pas cet esprit-là, quoi.
Disons peut-être effectivement que ça soit un peu rodé et qu'il y a des retours aussi par rapport... Ce genre de retour sera peut-être écouté par les organisateurs qui en prendront expérience.
La seule chose que je peux vraiment souhaiter, c'est qu'ils laisseront une espèce de tribune ouverte aux exposants pour qu'ils... Je sais pas pour la plupart des exposants, parce que je suppose que c'est les équipes françaises qui ont fait le déplacement ou qu'ils ont embauché des personnes justement pour les représenter. Mais il se trouve que nous, on a Frogster a une expérience au niveau européen, qu'on fait énormément de salons, que ce soit en Allemagne, en France ou dans d'autres pays d'Europe. Mais j'espère qu'ils nous laisseront la possibilité de nous exprimer et qu'on puisse leur donner la comparaison, faire une comparaison de nos ressentis par rapport à la Gamescom, puisqu'ils disent clairement dans leur communiqué de presse que l'ambition est de s'imposer comme un salon équivalent à la Gamescom. Et j'espère vraiment qu'on aura la possibilité de s'exprimer sur ce sujet, parce que je suis à peu près persuadé que c'est par ce genre de dialogue qu'ils arriveront à tirer leur manifestation vers le haut, même s'ils ont déjà placé la barre très haut. Parce que ouais, pour le moment, voilà, y a énormément de gros exposants, des exclusivités. Pour nous, on a ramené Terra pour la première fois jouable en français et en France. Donc voilà, il y a des bons produits qui sont présentés. On a des beaux stands, des bonnes animations. Donc pour le moment, tout se passe bien.
Bon bah merci beaucoup pour ton témoignage et puis pour la présentation de tous ces jeux. Et sur Game Radio, je pense qu'on fera des petites émissions en direct sur le jeu avec des community managers que j'ai rencontrés qui étaient ravis de venir donner leurs petits mots sur leur jeu, présenter leur jeu. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup à Frogster. Et puis j'invite tout le monde à venir sur le stand pour voir tout ça, parce que c'est vraiment très très beau. Voilà, merci. Merci à toi. Au revoir.
Game. Radio.